Bonjour, pouvez-vous vous présenter, docteur Traoré?
Je me nomme Dr. Taoré Manzoumana. Je suis titulaire d'un doctorat en études arabes, spécialiste en gestion des manuscrits et archives. Je travaille actuellement au sein d'une ONG qui s'appelle Sauvement des CI, Sauvegarde et Valorisation des manuscrits pour la défense de la culture islamique, où j'occupe le poste de coordinateur. Je suis marié, j'ai deux enfants.
Pourrez-vous nous parler un peu de votre parcours?
Je suis issu d'une école pas comme les autres, parce que pas comme les écoles classiques françaises. J'ai été formé dans les écoles qu'on appelle les médersas, où l'enseignement est arabophone. Donc, je me suis débrouillé à apprendre le français, parce que nous avons eu peu d'heures en français dans ces écoles-là, parce que la base de l'éducation, c'est l'arabe. De toutes les façons, j'ai pu quand même continuer les études malgré mon handicap d'albinos qui était tellement un souci parce que le problème de vision était le grand défi auquel je faisais face malgré que j'étais au premier rang, mais j'avais toujours des difficultés à mieux voir le tableau pour pouvoir recopier les leçons. Malgré, j'ai continué mes études grâce au soutien des amis que j'ai eus à l'école et terminé jusqu'à obtenir un doctorat. Parcours associatif, je suis militant de plusieurs associations, associations de jeunesse, associations pour la promotion et la défense des droits des albinos.
Nous aimerions savoir en fait comment vous avez commencé au sein de cette association, puisque vous venez d'évoquer tout à l'heure votre problème de vision quand vous étiez tout petit à l'école. Est-ce là la base de votre motivation pour avoir assez tôt fait partie de cette association de défense des droits des personnes atteintes d'albinisme?
Oui, effectivement, ça fait partie de mes motivations. Parce que tous les problèmes que j'ai rencontrés pendant mes études, je me suis dit, peut-être j'ai eu assez de soutien. Soutien parental, soutien des connaissances, soutien des amis. Est-ce que beaucoup d'entre eux auront cette chance d'avoir vraiment ce soutien? Donc de là, j'ai commencé à mûrir la réflexion, à mettre en place une association. Mais j'ai trouvé déjà qu'il y avait déjà une association en place, SOS Albinos. Je me rappelle en 2001, j'ai rapproché le président de cette association qui est aujourd'hui ministre du culte et des religions au Mali. Donc on a un peu échangé par rapport à cette association. Mais malheureusement, on n'a pas pu collaborer en ce moment-là. Parce que j'ai quitté Bamako tôt pour aller à Tombouctou et travailler à Tombouctou. Mais actuellement, je milite au sein d'une association qui s'appelle Association malienne pour la promotion des albinos, qui est une association mise en place en 2013 et qui a eu tout récemment, en début 2015, son récépissé. Et cette association, je l'ai connue à travers des amis. Donc, la majorité des associations étaient des filles. Mais quand j'ai connu cette association, je les ai approchées, je les ai dit, bien, voici quelque chose que j'ai voulu mettre en place. Et vous, déjà, vous avez fait le premier pas. Donc, je vais me joindre à vous pour vous aider à faire vivre cette association. C'est ainsi que j'ai adhéré à l'association et j'occupe aujourd'hui le poste de chargé de communication au sein de cette association.
Quelles sont les principales actions et activités que vous menez actuellement au sein de cette association de défense des droits des personnes atteintes d'albinisme?
Primordialement, nos combats vont à l'endroit des personnes non atteintes d'albinisme. Nous voulons les sensibiliser d'abord sur la question d'albinisme. Il y a beaucoup de préjugés autour de cette question d'albinisme que je ne vais pas en citer, mais qui fait que les albinos sont marginalisés, les albinos sont traités de toutes sortes de mots. Donc, nous voulons les sensibiliser. Nous voulons leur faire comprendre que l'albinisme est une maladie, est un dysfonctionnement biologique tout court. Et qu'aujourd'hui, un albinos est capable de bien des choses comme les autres. Donc ça, c'est notre premier combat. Le deuxième combat que nous menons aujourd'hui, ça, c'est sur nous-mêmes. Que nous-mêmes, que nous prenions conscience que l'albinisme ne doit pas être un handicap que nous considérons comme un obstacle aujourd'hui qui nous empêche de progresser dans la vie. Et j'ai pris toujours l'exemple sur moi-même. Je suis d'une famille pauvre. Je me suis battu pour arriver là où je suis. Je n'ai pas fait grand-chose, mais aujourd'hui, je suis fier du parcours que j'ai fait et je montre chaque fois cet exemple-là aux autres de voir que malgré notre problème de vision, malgré notre problème de peau, malgré tout ce qu'on a autour de nous, nous pouvons émerger dans cette société, dans la société malienne, avec tous ses préjugés. Donc, je leur donne d'autres exemples. Salif Keïta, le grand musicien, je leur donne le cas de notre ministre du culte, je leur donne d'autres exemples pour que vraiment ils puissent sortir vraiment de leur, comment dire, coquille. Parce que la timidité a beaucoup gagné sur les albinos. Donc, je fais des formations parce que je suis aussi formateur dans le domaine du développement personnel. Donc, je ramène des modules pour les former et pour qu'ils puissent avoir cette confiance en eux-mêmes et vraiment prendre leur destin en main. Notre autre combat, c'est vraiment trouver des produits pour le soin des peaux et des lunettes de verre corrigées pour vraiment aider les albinos à mieux étudier, à mieux se protéger contre les effets du soleil. Voici, entre autres, vraiment les chantiers sur lesquels nous travaillons actuellement au sein de l'association AMPA.
Vous venez de citer Salif Keïta ainsi que votre actuel ministre des Cultes au Mali comme des modèles. Vous êtes aussi un modèle de personnes atteintes de cet handicap qui, en dépit de la mauvaise perception, a pu percer. Pourtant, cette perception, elle est encore là, elle est encore présente. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à cette perception de la société malienne sur l'albinisme?
Elle est là, mais elle commence à disparaître parce que les gens commencent à comprendre. Les gens commencent à voir des têtes d'albinos émerger partout dans tous les secteurs de la vie économique, sociale et culturelle du Mali. Aujourd'hui, les gens me disent, Bazoumana, vous faites notre fierté. Je leur ai dit, mais il y a tant d'autres comme moi, des albinos, qui sont là. Ouvrez-les les portes. Ils ont des capacités, ils ont des talents, ils vont vous montrer ça. Ce que les gens, ce que je déplore aujourd'hui auprès des gens, c'est que les gens ont des doutes aujourd'hui sur nos capacités. Par exemple, si je vous cite mon histoire, à mon interview pour avoir mon premier poste à Tombouctou, on me pose la question, est-ce que vous pouvez supporter le soleil de Tombouctou? Et dit, c'est vrai, j'ai une peau qui est un peu faible. Mais je pourrais quand même trouver des moyens pour me protéger contre ce soleil. Donc, je ne vais pas mettre le soleil devant moi pour dire que je ne vais pas à Tombouctou pour aller travailler parce qu'il fait très chaud là-bas. C'est à moi de trouver des moyens pour me protéger contre la chaleur de Tombouctou. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai vécu là-bas pendant une dizaine d'années sans problème. Et je me suis toujours protégé. Donc, c'est pour dire que malgré que les gens ont cette mentalité, c'est à nous, les albinos, vraiment de montrer le contraire, que nous sommes capables. Et je pense que plus nous avançons dans ce sens, plus les gens seront convaincus du bien fondé de notre combat et ils vont comprendre que nous sommes comme eux et il n'y a aucune différence.
Et pourtant, il est connu que dans beaucoup de pays africains notamment, que la vie même des personnes atteintes d'albinisme est menacée. Pouvez-vous dire aussi que cette tendance commence à disparaître également au Mali?
Bien sûr, je peux l'affirmer que cette tendance commence à disparaître au Mali. ça commence à disparaître parce que de plus en plus nous voyons les albinos dans, comme je viens de le dire, dans tous les secteurs de la vie économique, sociale et culturelle. Moi, auparavant, je ne pouvais pas me promener seul. J'étais toujours accompagné de quelqu'un. Mais aujourd'hui, moi, je voyage partout en Afrique, je voyage partout en Europe et je n'ai aucune crainte. Je n'ai aucune crainte par rapport à ma vie au Mali aujourd'hui parce que j'ai vu que les Maliens vraiment ont changé. Aujourd'hui, je milite au sein d'une association qui s'appelle la Jeune Chambre internationale du Mali avec plus de 1 400 membres au Mali. Et je suis l'une des personnalités les plus remarquables au sein de cette organisation. Pas parce que je suis albinos, mais parce que je me suis senti comme l'un d'eux. Et je me suis bâti au sein de cette association pour avoir les grades et monter les échelons jusqu'à arriver à un certain niveau où la reconnaissance, le mérite m'était dû. Vous voyez. Donc c'est ça, j'explique chaque fois aux albinos de ne pas se laisser faire, de ne pas rester dans les préjugés, mais montrer que nous sommes capables et nous sommes capables de bien des choses.
Pensez-vous qu'un albinos qui vit par exemple dans la commune de dans la zone d'Aglal, dans la région de Tombouctou, il est exempt de ces menaces-là, puisque c'est une zone reculée, c'est une zone où vraiment certains services sociaux de base manquent et aussi certaines structures de sécurité manquent. Pensez-vous que un albinos qui vit dans cette zone-là est exempt des de menaces qui pourraient peser sur sa vie?
Je ne pourrais pas le dire ou l'affirmer à 100%, mais je sais que là où il vit aujourd'hui, les gens ne vont pas oser dire on va le prendre pour en faire un sacrifice, comme on le voit en Tanzanie ou au Kenya ou en Ouganda. Je sais qu'aujourd'hui, peut-être il manque de structures sanitaires là où il vit. Je sais qu'aujourd'hui, il manque des produits pour pouvoir protéger, soigner sa peau. Mais dire que sa vie est en danger parce qu'il vit dans cette zone, vraiment, je l'exclus. Je l'exclus parce que il vit dans un milieu que je connais un peu, la zone d'Aglal ou la zone de Tombouctou ou la zone de Mopti, vers le nord. Parce que c'est un cas qui n'est pas beaucoup dans cette zone. L'albinisme est très rare dans ces zones. Et une fois que ça arrive, c'est l'étonnement. Les gens s'étonnent, les gens ne comprennent pas assez, mais ils vont pas jusqu'à menacer cette personne dans sa vie.
Vous êtes aujourd'hui connu dans votre communauté. Avant d'arriver à ce niveau, bien que vous venez de retracer tout le combat que vous avez mené pour atteindre ce niveau-là, est-ce qu'on vous a déjà refusé un service en raison du fait que vous êtes atteint de cet handicap?
Avant que je me marie, ça a été un problème. Oui, c'est ce préjugé-là. Les gens vont dire, ah, vous allez vous marier à un albinos. Vous allez vous marier à un albinos. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup de tentatives avant de me marier aujourd'hui à deux femmes. J'en ai deux aujourd'hui, mais avant d'avoir une, j'ai beaucoup souffert. Et si vous me demandez la cause principale, je vais vous dire que parce que je suis albinos, que les tentatives que j'ai faites ont échoué. Et aujourd'hui, ce n'est pas moi seul. Les filles albinos ont ce problème-là aujourd'hui.
Alors,
Elles ont des copains, mais lorsque elles arrivent à réaliser un projet de mariage ou bien à vouloir réaliser un projet de mariage avec cet homme, la famille s'oppose en disant que c'est une fille albinos, vous voulez aller l'amener, ça va amener des albinos dans notre famille et ça va changer notre sang. Bon, beaucoup de propos de ce genre, et ça existe aujourd'hui. Et même ceux qui arrivent, celles qui arrivent à s'affirmer et à entrer dans un foyer, elles ont beaucoup de difficultés à se faire accepter par les parents proches. On a vraiment aujourd'hui cette difficulté. Et comme j'ai dit, l'association dans laquelle je milite a 90% de membres féminins. Donc, quotidiennement, on discute de ces sujets, je leur donne des conseils, et je leur dis comment se comporter face à ces genres de problèmes.
et comment êtes-vous arrivé à vous faire accepter au sein de votre communauté?
Je pourrais dire que c'est aussi facile et difficile à la fois. Je me suis dit, Bazoumana, tout ça dépend de vous-même, dépend de vous-même. Si vous pensez toujours que vous êtes albinos et que vous êtes différent de ceci-là, alors vous le serez toujours. Mais si vous pensez que vous êtes un d'eux, vous êtes comme eux, aucune différence, alors il n'y aura aucune différence. Si, je l'ai toujours répété, s'il y a une différence entre moi et les autres, peut-être c'est les autres qui les perçoivent. Moi, pour moi, je me sens comme eux. Et je l'ai toujours répété, je ne vois aucune différence. Et c'est comme ça. Je peux dire, c'est un peu psychologique. Je me suis mis ça dans la tête et j'ai tout fait comme si je ne suis pas albinos. En fait, je n'ai pas considéré ma blancheur de peau comme une différence, mais je me suis toujours dit que c'est peut-être une différence qui va me faire rapprocher aux autres. Parce que je me suis dit, c'est un avantage pour moi, c'est comment dire, un acquis pour moi. Quoi que je fasse, je ne pourrais pas changer ça. Alors je devrais vivre avec ça et je dois tout faire avec ça. Donc je me suis mis dans la tête que là, je ne pourrais rien y changer. Donc, allez-y, faites tout avec ça. Et c'est comme ça. À l'école, je n'ai pas refusé d'être ami avec quelqu'un. Peut-être ils peuvent refuser d'être ami avec moi. À l'école, j'ai toujours pris les cahiers des autres pour venir les recopier à la maison. À l'école, je suis toujours allé vers les autres. Hein? J'ai causé avec eux. J'ai joué au ballon jusqu'à avoir des surnoms dans le football. Et arrivé à l'université, c'était la même chose. Je me suis jamais mis à l'écart, mais je suis allé toujours vers les gens. Peut-être un peu, ils sont réticents pour m'accepter, mais au fur et à mesure qu'on collabore, ils voient en moi une personne comme eux, et sinon avec des qualités plus meilleures que celles qu'ils ont. Donc c'est comme ça que je me suis fait chemin dans la vie sociale, dans la vie professionnelle. Et partout où je passe, j'essaie d'être un bon exemple, j'essaie de laisser une trace où les gens pourront dire, voici telle personne, il est passé ici, il a fait ça, il a fait ça, et toujours du bien.
Votre réussite personnelle est sans conteste. Vous avez tissé également des liens avec nombre d'albinos que vous avez rencontrés, notamment au sein de votre association. Mais comment pensez-vous que vous faites vraiment la différence auprès de ces personnes à tête d'albinisme avec qui vous travaillez, que vous côtoyez le plus souvent?
Faites la différence, c'est par nos comportements. Je les ai toujours traités avec respect. Je les ai toujours dit, vous êtes meilleurs. Vous êtes meilleurs que moi. Parce que moi, dans ma philosophie, la personne qui est devant moi, je le considère toujours meilleur que moi. Si je me suis dit meilleur que lui, je ne pourrais pas le respecter, je ne pourrais pas lui donner une considération. Donc c'est comme ça que je travaille. Dans mes relations, j'ai que du respect pour la personne en face de moi. Et si je peux servir cette personne, je le sers sans arrière-pensée. Et aujourd'hui, si vous me demandez, je suis plus apte à servir les autres, hein, que de me servir. Et toujours, je rends service aux gens et sans attendre des autres. Celui qui parvient à me rendre service, il va trouver que je l'avais rendu service bien avant qu'il m'en fasse. Donc c'est comme ça que je fonctionne dans ma vie quotidiennement.
Docteur Bazoumana Traoré, nous nous acheminons vers la fin de cette interview. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un message à faire passer?
Oui, un message à l'endroit de la population malienne. Je pense qu'ils ont compris ce que c'est que l'albinisme. Ils ont compris que l'albinisme n'est pas le fait d'un sorcier, n'est pas une fatalité, n'est pas une malédiction, mais c'est une création divine d'Allah. Allah fait de celui qui veut un blanc, il fait de celui qui veut un noir. Moi, dans ma famille, nous sommes deux albinos et nous sommes six. Sur six, il y a deux albinos et les autres ne le sont pas. Mais aujourd'hui, ça n'a rien comme d'impact dans notre relation. On s'assoit, on mange dans le même plat. Et comme ça, juste avec les autres. Donc, c'est ce message que je voudrais lancer à toute la population malienne, de nous voir comme l'un d'eux, de nous accepter davantage, de nous ouvrir les portes, de croire en nos capacités. Aujourd'hui, l'albinisme ne doit pas être un obstacle pour une personne, un fils du Mali, d'émerger dans la vie professionnelle. Autre message à l'endroit de mes frères et sœurs albinos. Prenons conscience que notre handicap n'est pas un obstacle pour avancer dans la vie. C'est vrai, nous sommes généralement issus des familles pauvres, mais nous devons mettre en tête que nous devons nous battre, nous devons aller, nous devons lutter et avec les armes que nous avons. Étudions, travaillons et essayons d'occuper des postes pour aller dans les brousses et s'occuper bien de nos frères et sœurs albinos qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et qui n'ont pas eu la chance vraiment d'avoir une vie meilleure comme nous aujourd'hui. C'est ce message-là que j'ai vraiment lancé à la population malienne et à mes frères et sœurs albinos.
Merci, docteur Traoré. Merci de nous avoir accordé votre temps pour répondre à nos questions. Merci d'avoir partagé votre expérience personnelle, professionnelle, en tant que personne atteinte d'albinisme. Nous vous remercions vraiment infiniment.
C'est moi qui vous remercie d'avoir cet intérêt pour nous et merci encore une fois de plus.